sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, pour cette invitation qui m'honore pour toutes sortes de raisons, y compris les raisons familiales que vous avez citées. Je pense aussi être une des rares intervenantes à pouvoir me targuer d'avoir mon parrain dans cette salle, à ma gauche, Jean-Claude. Donc voilà, il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est pour moi un peu plus qu'une simple intervention scientifique. Comme vous l'avez dit, nous étions partis du principe qu'en m'invitant aujourd'hui, nous y verrions beaucoup plus clair sur ce qui se passait au Royaume-Uni, sur ce que le Brexit allait donner. On n'en est pas tout à fait là et j'ai peur même que la situation soit encore plus confuse qu'elle ne l'était quand on s'était parlé. Je vais tout de même essayer d'analyser, comme vous venez de le dire, non pas tant le côté britannique, sur lequel je n'ai plus rien à dire, je suis désespérée, mais sur le regard français sur cette crise du Brexit et sur, effectivement, la perception britannique de ce regard français. Donc je vais beaucoup parler du président Macron dans les minutes qui viennent. Mon point de départ, c'est donc l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée en mai 2017, c'est-à-dire quelques mois après le double coup de tonnerre pour l'Europe qu'a été l'année 2016, avec d'une part le Brexit, bien sûr, le vote, le référendum en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une part, et puis bien sûr aussi l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les deux étant, pour moi, au moins partiellement liés. Ces deux événements, donc, et plus généralement la montée d'un mouvement populiste anti-européen à la fois à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur, représentaient un défi sans précédent pour nous tous, mais aussi, plus précisément, pour un président français qui avait été élu sur un programme ambitieux de relance de l'intégration européenne. Du côté britannique, qui était avec un gouvernement qui était engagé dans des négociations très difficiles avec les 27 sur les modalités de cette sortie. La position que prendrait le nouveau gouvernement français sur la question du Brexit était évidemment cruciale. Londres, à ce moment-là, espérait s'appuyer sur des relations bilatérales privilégiées avec la France d'un côté, l'Allemagne aussi, pour pouvoir obtenir des conditions favorables lors de ce retrait. Ou pour le dire de façon un petit peu plus cynique, peut-être, Londres espérait jouer sur d'éventuelles divisions entre ses partenaires pour obtenir ce qu'il souhaitait. Comme je vais essayer de vous le montrer, cet espoir s'est avéré vain, puisque d'une part, les 27 sont restés unis pendant toute la durée de la négociation, et d'autre part, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le gouvernement français est passé progressivement d'une position plutôt ouverte et plutôt conciliante à l'égard de Londres, à la volonté de se débarrasser aussi rapidement que possible de ce problème, le problème du Brexit, quitte à se résoudre, et on en est là aujourd'hui, à une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre prochain. Ce qui, concrètement, signifie, comme vous le savez, la restauration des contrôles aux frontières le 1er novembre et des tarifs douaniers sur les produits britanniques. Donc, ce que je voudrais faire dans les minutes que vous m'accordez gentiment, c'est premièrement, dans un premier temps rapide, vous exposer très vite la vision européenne qu'avait le président Macron en arrivant et la raison pour laquelle le Brexit venait comme un... dans un jeu de quilles, j'allais dire, venait poser problème dans cette ambition qu'avait le président Macron. Ensuite, je parlerai des négociations qui ont démarré avec le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne en mars 2017 et qui donc devait s'achever théoriquement avec la sortie du Royaume-Uni en mars 2019. Et puis, si j'en ai le temps, et si le président m'en laisse le temps, je dirais quelques mots de l'avenir, alors avec beaucoup de points d'interrogation, des relations franco-britanniques post-Brexit, mais avec, voilà, peut-être ce sera pour la discussion si le temps nous est compté. Alors, deux mots d'abord sur la vision européenne d'Emmanuel Macron. Elle s'est forgée progressivement, évidemment, dans le contexte que nous connaissons, des crises multiples qu'a connues l'Union européenne depuis 2005, peut-être même avant, mais enfin, en tout cas, depuis 2005. Je crois que l'expérience du référendum français sur le traité constitutionnel de 2005 a été très importante dans la vision macronienne. Et notamment, alors, à tort ou à raison, c'est un autre sujet, mais enfin... Macron lui-même et son gouvernement en général font souvent référence au fait que, après l'échec du référendum de 2005, on est quand même allé vers un traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel du contenu du traité constitutionnel. Sous-entendu, on n'avait pas respecté la fameuse parole du peuple exprimée dans ce référendum. Et pour lui, c'était une erreur politique qui avait alimenté l'euroscepticisme en France et ailleurs, et une erreur qu'il ne fallait pas renouveler. En d'autres termes, il faut respecter le résultat du référendum, des référendums en général, y compris donc celui du Brexit, même s'il ne nous plaît pas. Il ne faut pas donner l'impression qu'on n'écoute pas le peuple, d'après lui. Autre élément de ces crises multiples, bien sûr, je les cite en vrac, la crise financière et économique de 2008-2009, la crise des dettes souveraines en 2010-2011, et bien sûr la crise des réfugiés de l'été 2015, toutes crises qui ont renforcé la perception d'une impuissance de l'Union européenne à protéger ses citoyens et ses frontières, perception qui aurait été manifestée par le vote en faveur du Brexit en 2016. Et bien sûr, ce référendum lui-même, avec pour la première fois la décision d'un État membre de quitter l'Union européenne, mettant fin à un long processus d'élargissement et soulevant la question qui agite beaucoup mes collègues politistes depuis quelques années, enfin depuis 2016, qui est la question d'une possible désintégration de l'Union européenne. Donc ça, c'est le contexte très, 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 très rapide dans lequel la pensée macronienne s'est développée. Et, comme vous le savez, il a fait, en 2017, une campagne très clairement pro-européenne, en désignant le Front national et ce qu'il représentait pour l'Europe comme son principal adversaire. Et il parlait déjà à cette époque de ce qui est devenu un leitmotiv chez lui, cette idée d'une Europe qui doit protéger les citoyens, avec, il avait à ce moment-là, l'idée de créer des conventions citoyennes pour introduire plus ou pour développer la démocratie dans l'Union européenne. Et puis, dans les mois qui ont suivi son élection, il a prononcé 3 discours sur l'Europe dans des lieux ultra symboliques, l'un à côté, pas très loin d'ici, à la Sorbonne, à Athènes et puis à Aix-la-Chapelle. Et dans ces 3, si on reprend ces 3 discours, on retrouve les mêmes thèmes qui étaient regroupés autour de l'idée d'une refondation de l'Union européenne, nouvelle ambition, autour de l'idée aussi de souveraineté européenne. Alors évidemment, dans le contexte britannique, où on a beaucoup parlé de souveraineté au moment du référendum de 2016, c'était l'idée que finalement la souveraineté nationale n'avait plus grand sens, mais qu'en revanche, une souveraineté à l'échelon européen pour défendre les intérêts et les valeurs partagées des Européens, elle avait du sens. Donc j'avais une citation de Macron que je vais peut-être vous épargner, mais que vous retrouverez dans le texte écrit. Il y avait donc en tout cas cette idée que toutes les grandes menaces auxquelles l'Europe doit faire face, depuis le réchauffement climatique jusqu'au terrorisme ou aux menaces provenant des États autoritaires qui entourent l'Europe, toutes ces menaces ne pouvaient être... On ne pouvait y répondre qu'à un niveau européen et non pas national. 4 thèmes revenaient dans ces discours que je ne vais peut-être pas développer, mais que vous retrouverez aussi dans le texte écrit. La protection économique, d'abord, contre les effets négatifs de la mondialisation en particulier. Le renforcement de la zone euro, là c'était l'appel du pied à l'Allemagne qui a été, comme vous le savez, peu entendu. Une politique d'immigration et d'asile plus efficace, en réponse bien sûr à la crise de 2015. Et puis, alors là, affectant directement les Britanniques, le renforcement des capacités de défense de l'Union. C'était là les quatre thèmes développés par Macron pour répondre à la crise démocratique de l'Union européenne et au mécontentement exprimé, entre autres, par les Britanniques dans le référendum, mais aussi un mécontentement qu'on retrouvait un peu partout en Europe. Dans ce contexte, bien sûr, le Brexit tombait particulièrement mal. Disons que ses ambitions pour l'Union européenne cadraient très mal avec le scénario d'une négociation interminable avec les Britanniques pour acter leur sortie de l'UE. Donc le Brexit, c'était à la fois la menace, bien sûr, d'un début de désintégration ou d'un risque de désintégration, mais aussi, sans aller jusque-là, en tout cas, le risque d'un enlisement dans des discussions sans fin, dont on ne peut pas dire que les événements des derniers mois aient montré qu'il ait eu tort, et donc d'une paralysie des institutions de Bruxelles. C'est toujours la grande inquiétude des autorités françaises. Et donc l'idée, c'était à la fois de renforcer et de protéger l'Union européenne pour éviter les effets négatifs du Brexit. C'est pour cette raison que dans les trois discours que j'ai cités, Macron a fait quasiment pas mention du choix britannique de quitter l'Union européenne, comme si on pouvait le réduire à un épiphénomène certes fâcheux, mais qui ne devait en aucun cas entraver la marche en avant des 27. C'était un problème de politique intérieure britannique, et il fallait respecter ce vote, si regrettable soit-il. Et donc, résoudre le plus rapidement possible la question du Brexit et ne pas immobiliser des énergies qui devaient être consacrées plutôt au renforcement de l'Union. Il fallait aussi, dans la vision française, depuis le départ, dès 2017, protéger le marché intérieur de la décision britannique. Et pour cela, marquer très clairement la différence entre les avantages dont profitaient les États membres et les contraintes qui s'imposaient aux États tiers, même ceux qui étaient d'anciens États membres. Donc le Royaume-Uni devrait avoir les mêmes contraintes que tout autre État tiers, et en particulier pour accéder au marché unique. Cela était d'autant plus important que Theresa May, vous en souvenez peut-être, dès l'automne 2016, donc bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avait opté pour ce qu'on appelait alors un « hard Brexit ». Le « hard Brexit », entre-temps, dans la vulgate médiatique, est devenu la sortie sans accord. À l'époque, il n'était pas du tout question de sortir sans accord, mais il était question de « hard » ou « soft Brexit ». Le « hard Brexit », c'était sortir du marché unique. Alors que le « soft » aurait consisté, c'est encore ce qu'espèrent certains, à rester au minimum dans l'union douanière et, si possible, dans le marché unique de l'Union européenne. Donc, dès l'automne 2016, Theresa May a fait le choix, et c'est un des reproches qu'on peut lui faire, d'une vision très, très jusqu'au boutiste, à l'époque en tout cas, c'est-à-dire de sortir du marché unique et de l'union douanière, quand bien même ça n'avait pas été discuté pendant la campagne du référendum. Et du coup, la conclusion pour la France, et je dirais pour l'Union européenne dans son ensemble et la Commission qui a mené les négociations, c'est qu'il fallait faire comprendre au Royaume-Uni que dès lors qu'il faisait le choix de sortir du marché unique, il ne pourrait pas jouir des mêmes droits que même ceux des membres de l'espace économique européen, comme la Suisse ou la Norvège. Ça serait forcément en deçà. Ils devraient se contenter d'un futur accord de libre-échange et d'accords de coopération sur les questions de sécurité et de défense. J'en arrive à mon second point sur les négociations proprement dites, qui se sont donc déroulées à partir de mars 2017 et se sont terminées en novembre 2018, pour une sortie théorique en mars 2019. Elles se sont déroulées sur la base des orientations qui avaient été adoptées à l'unanimité par les 27 lors du Conseil européen d'avril 2017. Et le point important de ces orientations, c'est que les négociations seraient conduites exclusivement par l'équipe de Michel Barnier, ce qui a empêché pendant 2 ans les Britanniques de tenter des accords pays par pays, voire ministère par ministère, y compris en France. Et ça, ça a été un choix crucial. Second choix qui a été fait à cette époque, c'était de diviser les négociations en 2 étapes. La première qui porterait uniquement sur la transition, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni et les deux années qui suivraient, et qui devait porter sur les trois points sur lesquels dont on n'est pas sorti encore aujourd'hui, la contribution au budget, enfin la facture de sortie, d'une part, les droits des citoyens britanniques vivant en Europe et des citoyens européens vivant au Royaume-Uni, et surtout la question de la frontière irlandaise. Donc ça, c'était la première étape uniquement, et la seconde ne pourrait commencer qu'une fois que cette première serait franchie, et elle porterait sur les relations futures, qui sont après tout, tout de même le plus important, entre l'Europe et le Royaume-Uni. Pour en revenir à la position française là-dessus, à son arrivée au pouvoir, donc juste quelques mois après, en mai 2017, Macron, né à ce moment-là, ne s'est en rien démarqué de cette position plutôt dure, qui était celle de la Commission et de Michel Barnier. On l'oublie aujourd'hui, mais pendant quelques mois, il a même été plutôt celui qui était le plus conciliant vis-à-vis des Britanniques. En juin 2017, donc peu de temps après son arrivée à l'Élysée, il avait même dit que si les Britanniques changeaient d'avis, les Européens seraient évidemment ravis de les voir rester dans l'Union européenne. On en est très loin aujourd'hui, on est très loin de ce discours aujourd'hui. La première étape réussie dans ces négociations, ça a été en décembre 2017, où il y a eu un rapport adopté par le Conseil européen et les Britanniques, dans lesquels on semblait se diriger vers des solutions sur les trois points que je viens de mentionner, et en particulier le règlement budgétaire. Les Britanniques ont accepté de payer 40 milliards, et sur les droits des citoyens, qui en principe était le sujet sur lequel il devait y avoir le moins de controverses. Là-dessus, l'étape suivante, c'est qu'on attendait de la part des Britanniques des solutions pour régler le problème de la frontière irlandaise. En deux mots, peut-être juste un mot sur cette histoire de la frontière irlandaise. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la frontière entre le nord et le sud devient la frontière de l'Union européenne. Or, depuis 20 ans, depuis les accords de paix en Irlande du Nord, la frontière a disparu. Matériellement, il n'y a plus de frontière. Vous ne savez pas quand vous êtes sur une route, vous ne savez pas quand vous passez du sud au nord ou du nord au sud. Avec tout ce que cela entraîne aussi comme échange économique, comme échange de personnes, etc. De fait, l'île d'Irlande est maintenant un espace, pas politique, mais économique et, j'allais dire, professionnel, humain, commun. Et donc, remettre une frontière à cet endroit-là, c'est beaucoup plus que simplement remettre une frontière économique de contrôle des échanges. C'est politiquement et symboliquement extrêmement grave. C'est revenir sur les accords de paix d'il y a 20 ans au risque d'un retour de la violence politique en Irlande. Donc, les Européens ont demandé aux Britanniques quelles solutions ils envisageaient, sachant qu'eux-mêmes proposaient celle qui est en train de revenir sur le tapis avec Boris Johnson dans une espèce de boucle un peu étonnante, c'est-à-dire de mettre une frontière en fait en mer d'Irlande. Que la frontière de l'Union européenne ne soit pas entre le nord et le sud, mais qu'en gros, le nord soit, j'allais dire, presque annexé à l'Union européenne pour que la frontière se fasse entre les îles britanniques d'un côté et les îles irlandaises, l'île irlandaise de l'autre. Ça n'était pas acceptable pour les Britanniques, enfin, en tout cas pour les conservateurs britanniques et pour les unionistes nord-irlandais. Et donc, comme vous le savez, Theresa May a refusé cette solution et proposé au printemps 2018 ce qu'on a appelé le plan de Chequers. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il s'agissait, alors elle proposait tout simplement de créer une zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour les marchandises, uniquement. Donc si on reprend les quatre libertés de circulation qui sont dans le marché unique, elle proposait d'en garder une. La liberté de circulation des marchandises et de supprimer les trois autres, c'est-à-dire circulation, libre circulation des capitaux, des services et des personnes. Sachant que la grosse question, c'était la libre circulation des personnes. Cela aurait évidemment évité l'instauration d'une frontière en Irlande du Nord, puisqu'il y avait libre circulation des marchandises, mais c'était inacceptable pour l'Union européenne dans son ensemble, puisqu'il n'y avait plus de respect de l'intégrité de marché unique et séparation des différentes libertés de circulation. Donc, et c'est là où il y a eu un tournant français, mais qui était aussi un tournant européen, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un durcissement de la position française très claire qui s'est manifesté au moment du sommet européen de Salzbourg, il y a juste un an, en septembre 2018, où cette fois, le président français a dit, a été peut-être plus inflexible que ses camarades, en expliquant, donc Macron a expliqué à ce moment-là que les propositions britanniques n'étaient pas acceptables en l'état, pas respectueuses de l'intégrité du marché unique, alors que d'autres chefs d'État ou de gouvernement, à ce moment-là, notamment en Autriche et en Hongrie, tenaient des propos plus conciliants. Cette réaction française a été extrêmement mal vécue à Londres. Le rejet sans discussion du projet de Chequers a été très très mal reçu. Et j'ai encore parlé des gens de l'ambassade britannique à Paris à ce printemps qui se plaignaient encore de cette attitude de notre vieil ami. Comment est-ce que la France a pu nous faire ça, refuser même de discuter la proposition de Chequers. Finalement, l'accord qui a été trouvé donc en novembre dernier, qui n'a pas été voté par le Parlement britannique, mais qui avait été voté, a été le résultat de concessions britanniques, puisque donc le fameux accord sur lequel on est toujours de novembre 2018 prévoit donc ce backstop, pour la frontière irlandaise, qui est que le Royaume-Uni dans son ensemble, et pas seulement l'Irlande du Nord, reste dans l'union douanière le temps, pendant cette période de transition, et le temps qu'un futur accord soit trouvé. Et c'est cela qui a été rejeté par les Johnson et autres, Farage et autres, et unionistes d'Irlande du Nord, qui ont fait, avec le soutien de l'opposition travailliste, que cet accord a été rejeté trois fois. La position française, pour en revenir à celle-ci, a évolué à partir de ce moment-là et de ces trois rejets par le Parlement britannique. On a vu chez le président Macron et dans le gouvernement en général une impatience grandissante vis-à-vis de l'incapacité du gouvernement britannique à adopter d'abord une position réaliste dans les négociations, puis les atermoiements au sein du cabinet du Parlement. Cet agacement s'est fait sentir de plus en plus clairement face au temps et à l'énergie dépensée par l'UE à discuter du Brexit plutôt que de problèmes qui étaient à ses yeux plus importants. On l'a vu en janvier et puis en avril, en janvier 2019, quand il a été question de réouvrir des négociations sur l'accord de retrait. Il l'a refusé immédiatement. Puis, au Conseil européen d'avril, et là, pour la première fois, de vraies tensions sont apparues, si vous vous souvenez, entre Paris et Berlin. Pour la première fois, Macron a dit « ça suffit, on ne donnera pas de nouveaux reports aux Britanniques ». À moins d'avoir une vision claire de ce qu'il ferait de ce report. Alors que Merkel était beaucoup plus conciliante, elle voulait donner du temps aux Britanniques pour éviter à tout prix une sortie sans accord. Et le compromis qui a été trouvé dans le plus pur style européen, ça a été de donner 6 mois, puisque les Britanniques, les Allemands proposaient 1 an, les Français rien, et donc le compromis a été trouvé pour 6 mois, donc jusqu'au 31 octobre. On peut penser, aujourd'hui 23 septembre, on peut se dire qu'après tout, la position macronienne d'avril n'était pas complètement absurde, puisqu'effectivement, il ne s'est rien passé, ou presque, depuis le 31 mars. Aucune solution n'a été trouvée. Le gouvernement de Theresa May est tombé. Boris Johnson est arrivé. Il n'a plus de majorité. Je vous passe les épisodes des dernières semaines que vous connaissez aussi bien que moi. Mais finalement, la position française qui apparaissait comme très dure n'était peut-être pas totalement irréaliste, me semble-t-il. On pourra peut-être en rediscuter. Alors, pourquoi une telle évolution, donc de plus en plus dure, de la position française, au point d'en arriver, non pas une crise avec l'Allemagne, je crois que les médias ont peut-être un peu surjoué cette division, mais enfin, un vrai désaccord, au moins ponctuel, avec l'Allemagne là-dessus. Plusieurs explications possibles, me semble-t-il. La première, c'est la relative indifférence avec laquelle le gouvernement français accueille désormais l'éventualité d'une sortie sans accord. À tort ou à raison, le gouvernement français pense que la France est bien préparée à une sortie sans accord. que les ports de la côte de Calais, des ports bretons, les ports normands, se sont organisés, que les queues de camions aux frontières en cas de sortie sans accord seront surtout du côté britannique et moins du côté français, et que surtout, entre l'incertitude qui traîne depuis des mois et des mois et cette sortie sans accord, finalement, il vaut peut-être mieux une sortie sans accord. Deuxième raison, me semble-t-il, on sait que la France a beaucoup investi dans la relation bilatérale avec le Royaume-Uni, notamment dans les questions de défense, depuis en particulier 2010 et les accords de Lancaster House. Le gouvernement français pense que ces relations privilégiées resteront, avec ou sans Brexit, et que donc, à la limite, on est protégé, que le plus important... Ces relations-là, elles sont bilatérales, elles ne sont pas au sein de l'Union européenne, et donc elles ne souffriront pas forcément d'une sortie dans de mauvaises conditions du Royaume-Uni. À mon avis, c'est optimiste comme interprétation, je pense que là aussi on aura l'occasion d'en reparler. J'ai du mal à penser que s'il y a une sortie sans accord le 31 octobre, elle ne sera pas acrimonieuse, et elle n'aboutira pas, au moins dans un premier temps, à un rafraîchissement des relations, y compris bilatérales. Troisième raison, contrairement à ça, c'est la grande différence avec la situation politique au Royaume-Uni, il y a très peu de pression de politique intérieure sur le gouvernement français à propos du Brexit. Il y en a sur beaucoup d'autres sujets, mais là-dessus, le gouvernement français a... Enfin, vraiment les mains libres, à quelques réserves près. Quand on regarde les débats parlementaires l'année qui vient de s'écouler sur le Brexit, à part que deux, trois interventions de la France insoumise pour dire du mal de l'Allemagne d'un côté et du Front National, enfin de l'ex-Front National de l'autre pour dire que le Brexit c'est formidable, il y a vraiment très peu de pression. Il y a un large consensus, pas seulement parce que le gouvernement a une large majorité au Parlement, mais aussi parce que l'opposition centre-droit et centre-gauche, disons, soutient largement la position française. Donc très peu de pression de ce côté-là, et c'est évidemment la grande différence avec ce qui se passe à Londres, et du coup une marge de manœuvre très, très grande. Je vois que le temps passe et je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Ça va ? Bon, alors je poursuis. Alors. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je conclue. Je crois aussi que la frustration française vis-à-vis du Brexit va avec ou s'accompagne de la frustration vis-à-vis de l'Allemagne que le gouvernement français ressent devant le peu d'enthousiasme mis par le gouvernement Merkel à reprendre au bon les propositions qu'il avait faites, notamment concernant la zone euro. Il y a eu, comme vous savez, plusieurs mois avant que les propositions contenues dans les discours de Macron soient ne serait-ce que commentées du côté allemand. Et quand la réponse est finalement arrivée, elle a été vraiment à minima. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait eu une lettre peu amène de la nouvelle dirigeante de la CDU qui suggérait à la France de renoncer à son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un siège de l'Union européenne, ce qui avait été assez mal reçu à Paris. Donc je pense qu'il y a une double frustration française en ce moment qui conduit à un durcissement vis-à-vis du Royaume-Uni, parce que voilà, ça fait beaucoup de problèmes. Et qu'on pourrait au moins se débarrasser de celui-là. C'est en tout cas mon interprétation. Alors, dernier point que je voudrais aborder, c'est celui de l'avenir des relations bilatérales, avec beaucoup de prudence, parce que voilà, je ne sais même pas ce qui va se passer cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer le 31 octobre, donc j'avance vraiment avec beaucoup de prudence sur ce qui pourrait se passer après. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec un président français aussi désireux de tourner la page du Brexit, est convaincu qu'un retour en arrière du gouvernement britannique n'est d'ailleurs plus souhaitable, pour des raisons donc démocratiques, ce qui n'est évidemment pas la position de tous les Britanniques, la question de l'avenir de ces relations bilatérales reste entière. Les Français, je l'ai dit, sont confiants, et il est vrai que la coopération en matière militaire n'a pour l'instant à ma connaissance, pas vraiment souffert du référendum depuis 3 ans. Cela dit, la réalité me paraît tout de même un peu plus compliquée. On a vu déjà des tensions naître donc, entre les deux pays pendant les négociations, avant même les sommets de Salzbourg et de Bruxelles en avril dernier. La partie française craignait beaucoup que les négociateurs britanniques essayent d'obtenir des concessions secteur par secteur et pays par pays, et donc jouent de ces relations de la défense, enfin, aille auprès du ministère de la Défense et dire, enfin, faites pression sur Matignon et sur l'Élysée, parce que sinon, c'est nos relations qui sont en danger. Et du coup, l'ambassade britannique à Paris a interdit aux représentants britanniques d'avoir les moindres contacts avec leurs homologues dans les différents ministères. C'est l'inverse. Matignon a interdit au ministère français d'avoir des contacts avec leurs homologues à l'ambassade britannique, à la grande fureur des Britanniques. Donc, on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas une incidence sur les relations en matière de défense. Le secrétaire général aux affaires européennes refuse de recevoir l'ambassadeur. Pour vous donner une idée des relations bilatérales aujourd'hui. Il est quand même difficile d'imaginer que ces différents épisodes ne laissent pas de traces dans la relation bilatérale, encore une fois, au moins à court terme, même si ça n'est que pour Paris qu'une période transitoire avec l'idée de reprendre des relations approfondies à l'avenir. Là encore, il y a une citation intéressante de Macron dans son discours de la Sorbonne, où il dit que dans cette Union européenne repensée, simplifiée que je propose, je ne m'imagine pas que le Royaume-Uni ne puisse trouver sa place. Donc il y a quand même l'idée qu'à long terme, il faudra trouver une place pour le Royaume-Uni. L'autre problème qui se pose, me semble-t-il, et je finirai avec ça avant de conclure, c'est qu'il est quand même très difficile de séparer entièrement la coopération bilatérale en matière de défense de ce qui se fait au sein de l'Union européenne et que le président Macron essaye de pousser. Le Royaume-Uni est un acteur majeur de la défense dans notre vieux continent. Comme vous savez, il est inenvisageable d'avoir une défense européenne crédible sans la participation britannique. Il faudra donc trouver pour lui un statut d'association ou autre qui l'arrime à l'architecture de défense européenne, qui par ailleurs reste encore largement à construire. Et donc, si le pays sort de l'Union sans accord le 31 octobre, une telle coopération risque d'être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que si c'est une sortie en douceur avec un accord de transition et dans de bonnes conditions. On a déjà vu que l'Union européenne avait, sans attendre la sortie du Royaume-Uni, exclu le pays du programme de navigation par satellite Galileo, par exemple. Il y aura d'autres épisodes de ce type. Et donc, beaucoup d'incertitudes demeurent sur l'avenir de ces relations bilatérales, malgré l'optimisme du gouvernement français actuel sur cette question. Donc, pour finir, je voudrais conclure en vous remerciant de votre attention, d'abord, et puis en disant que le Brexit représente, sans surprise, un défi immense pour nous tous, Européens, et aussi particulièrement pour un gouvernement français qui a construit sa politique étrangère autour du thème de la refondation de l'Europe. Je qualifierais l'attitude qu'il a adoptée par l'idée du « containment ». Macron a essayé de limiter les effets négatifs du Brexit pour l'Union européenne dans son ensemble, les conséquences négatives, bien sûr. Donc, dans un premier temps, il a clairement espéré soit un retour en arrière des Britanniques, soit en tout cas la signature rapide d'un accord de sortie permettant une transition douce vers une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et puis, devant l'enlisement de la situation politique à Londres, il a aujourd'hui opter pour une solution rapide, même si cela doit aboutir à une sortie sans accord qui aurait des inconvénients majeurs sur le plan économique pour nous tous, mais qui au moins éviterait de prolonger la crise actuelle. Du coup, il a donné l'impression d'adopter une posture plus radicale que celle, par exemple, de l'Allemagne, mais, et je finirai là-dessus, je dirais que sur le fond, c'est surtout une différence de forme. Sur le fond, la stratégie macronienne n'est pas différente de celle de la Commission européenne depuis le début. En l'absence de sortie effective du Royaume-Uni aujourd'hui, contrairement à ce qui était prévu, il est encore difficile d'évaluer si cette attitude a été la bonne, mais elle était en tout cas, me semble-t-il, logique si l'on suit la vision macronienne de l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.